Chapitre 4. Marie Salade a consacré la plus grande partie de son temps à se perfectionner dans l'art qui lui promettait un brillant avenir, une carrière glorieuse et une situation qui satisferait à la fois sa vanité et sa passion pour le luxe. Stein ne se lassait pas d'admirer sa constance dans le travail et ses admirables progrès. Du reste, son admission dans la haute société avait été retardée par une indisposition de l'enfant de la comtesse. Celle-ci, dès l'apparition des premiers symptômes du mal, avait oublié tout ce qui l'entourait, ses réunions, ses toilettes, ses amusements, Marie Salade et ses amis. Il n'y avait rien pour cette mère dans le monde entier que son fils, au chevet duquel elle avait passé 15 jours sans prendre le temps de manger et de dormir, ne faisant que pleurer et prier. La dentition de l'enfant était arrêtée, les dents ne pouvant percer les gencives gonflées et endolories. Sa vie était en danger. Le duc conseilla à la mère désolée de consulter Stein. Le conseil fut suivi et l'habile médecin allemand sauva l'enfant en lui faisant une incision aux gencives. Depuis ce moment, Stein devint l'ami de la maison. La comtesse le serra dans ses bras et le comte le récompensa comme aurait pu le faire un prince. La marquise disait que c'était un saint. Le général avoua qu'il pouvait y avoir de bons médecins hors de l'Espagne. Rita, en dépit de toute sa réserve, daigna le consulter sur ses migraines et Raphaël déclara qu'au premier jour, il se casserait la tête pour avoir le plaisir d'être guéri par le grand Frédéric. Un matin, la comtesse était assise, pâle et défaite, au chevet de son fils qui dormait. Sa mère était sur une chaise basse et, comme préservatif contre la chaleur, agitait sans cesse son éventail. Rita s'était installée devant un grand métier à broder et travaillait à une magnifique nappe d'autel qu'elle avait entreprise de compagnie avec la comtesse. Raphaël entra en ce moment. « Bonjour, ma tante. Bonjour, mes cousines. Comment va l'héritier des Algares ?»« Aussi bien qu'on peut le désirer, » répondit la marquise. « Alors, ma chère Grâce, » continua son cousin, « il me semble qu'il est temps que tu sortes de ta retraite. » Ton absence est une éclipse visible du soleil qui plonge toute la ville dans la consternation. Les habitués de tes soirées poussent à l'envie de si violents soupirs qu'ils auront bientôt fait tomber toutes les feuilles des arbres de Las Delicias. Le baron de Maude ajoute à la liste de ses suppliques celle que lui arrache ton invisibilité. Il est scandalisé de cet excès d'amour maternel. En France, dit-il, on permet aux dames de faire de fort jolis vers sur ce sujet. Mais on ne supporterait pas qu'une jeune mère exposât sa santé et flétrit la fraîcheur de son teint en oubliant auprès de son enfant son bien-être personnel, au point de se priver de nourriture et de sommeil. « Quelle sottise !» s'écria la marquise. « Je ne croirai jamais qu'il y ait au monde un pays où une mère consente à s'éloigner un seul instant de son enfant malade. » « Eh bien, c'est encore pire avec le major, » continua Raphaël. « En apprenant ce que tu fais, il a réussi à dilater encore davantage ses yeux si étonnés d'ordinaire et il dit qu'il n'aurait pas cru les Espagnols assez barbares pour ne pas avoir une nurserie chez eux. Hey, « Hé, qu'est-ce que cela ? » dit la marquise. D'après ses explications, poursuivit Raphaël, c'est une vraie Sibérie pour les enfants anglais. Sir John parie que tu es devenue si légère et si mince que tu pourras passer pour la fille du Zéphyr avec plus de raison que les juments andalouses qui jouissent de cette réputation et qui, du reste, demeureraient bien en arrière de sa jument anglaise Atalante sans qu'il fût besoin de répandre sur la route une provende d'avoine pour les détourner. Le seul, chère cousine, qui se soit consolé des maux de l'absence est Polo qui, pour cela, a fait paraître un volume de poésie à propos duquel nous nous sommes brouillés. « Raconte-nous donc cela, Raphaël, » dit Rita. « J'aurais voulu assister à votre querelle. Elle m'aurait bien amusée. » « Vous savez bien, » dit Raphaël, « que toutes nos modernes illustrations aspirent à conquérir par tous les moyens possibles le titre de notabilité. » « Mon cher neveu, » s'écria la marquise, « pour l'amour de Dieu, laisse donc là ces mots étrangers qui m'assomment. » « Pardon, ma tante, » poursuivit Raphaël, « mais ils sont nécessaires pour mon histoire et font partie de son essence. Comme ces messieurs, et surtout ceux qui ont puisé aux sources françaises, ont vu qu'en France, la particule 2 est un signe de noblesse, ils ont voulu l'adopter aussi. Et comme en Espagne, elle ne signifie absolument rien, ils peuvent flatter leur oreille par le son de ce monosyllabe innocent, comme un enfant qui donne à son père et à sa mère une foule de noms. Cela peut éblouir les étrangers qui ignorent qu'en Espagne, le « deux » et la multitude de noms sont employés arbitrairement et qu'on peut en user à sa fantaisie. « Vraiment, dit la marquise, il serait bien singulier que quelqu'un fût noble par cela seul qu'il aurait ces deux lettres devant son nom. Chez nous, les femmes s'ajoutent au leur celui de leur mari avec le « deux » courant. Ainsi ta mère signée, Raphaël. Santa Maria de Arias. Il y a beaucoup de noms nobles qui ne sont pas précédés du 2. À Séville, le marquis de C est J.P. Le comte de La est F.E. Le marquis de M, A.S. Mon frère s'appelle Léon Santa Maria et le duc de Rivas met en tête de ses ouvrages Angèle Saavedra. Pour en revenir à notre pôle, reprit Raphaël, non content d'avoir un nom si bien fait pour figurer en tête d'un recueil de poésie, il eut l'idée lumineuse d'y ajouter celui de sa mère ou celui de sa grand-mère, selon le plus ou moins d'harmonie des syllabes qu'il est composé, et il eut la satisfaction de voir imprimé, en tête de son ouvrage, par A, Polo des Marmolles. Et il fut si content de voir ainsi sur papier vélin son nom prosaïque allongé, ennobli, sonore, distingué, superbe, comme un paladin qui sortirait de la tombe avec son armure rouillée, qu'il se crut dès lors un homme tout différent de ce qu'il avait été jusque-là. Il conçut de l'admiration et du respect pour sa propre personne. Il me rappelle cet officier portugais qui, se voyant dans un miroir, armé de pied en cap, se mit à trembler, se faisant peur à lui-même. Son enthousiasme monta à un tel point qu'il fit graver sa nouvelle découverte sur ses cartes de visite en y ajoutant un écusson fantaisiste dans lequel on voit un château. « De cartes !» dit la marquise impatientée. « Un lion, poursuivit Raphaël, un aigle, un léopard, un renard, un ours, un dragon, enfin l'arche de Noé de l'art héraldique, le tout surmonté d'une couronne impériale. » Par malheur, le graveur, qui n'était ni un Estevez ni un Carmona, a oublié de mettre des cordes à une lyre, qui fait aussi partie des armes de Polo. Mais c'est là un petit inconvénient auquel personne ne fait attention. Je lui fis mon compliment à propos de son nouveau nom, en lui assurant que le nom de Marmol, venant après celui de A. Polo, était une vraie perle, parce qu'un Apollo de marbre valait bien mieux qu'un Apollo de plâtre. Mais, s'apercevant que je me moquais de lui, il en fut si outré qu'il me menaça d'écrire une satire contre l'orgueil des nobles. Je lui demandai si sa satire contre les nobles s'en prendrait aussi aux femmes de la noblesse. Alors il se souvint de toi, ma chère cousine. Il poussa un soupir et sa redoutable plume lui tomba des mains. Il se mit à peigner, à lisser et à pommader la chevelure de serpent de sa némésis. Et moi, je suis sorti d'un mauvais pas grâce aux beaux yeux de ma cousine. Mais, ajouta Raphaël en voyant entrer Stein, voilà la plus précieuse des pierres précieuses, pierres mélodieuses comme celles de même nom. Vous, don Frédéric, qui êtes un observateur et un physiologiste, n'admirez-vous pas combien, en Espagne, dans toutes les situations de la vie, nous savons conserver l'égalité d'humeur, la bienveillance et même la gaieté? Ici, nous ne connaissons ni le schwermut des Allemands, ni le spleen des Anglais, ni l'ennui de nos voisins les Français. Savez-vous pourquoi? C'est parce que nous ne demandons pas à la vie plus qu'elle ne peut donner et que nous ne soupirons pas après un bonheur trop recherché. C'est, opina la marquise, parce que nous savons ordinairement nous borner aux goûts qui conviennent à notre âge. « C'est, dit Rita, parce que chacun est libre d'agir à sa convenance. »« C'est, observa la comtesse, parce que notre beau ciel répand le bien-être moral dans notre cœur. »« Je crois, dit Stein, que c'est pour toutes ces raisons, et en outre, à cause de votre heureux caractère national. » Le pauvre Espagnol, qui se contente d'un morceau de pain, d'une orange et d'un rayon de soleil, est en harmonie avec le patricien, qui se conforme presque toujours à sa destinée et se fait le noble procus de lui-même en réglant ses aspirations et son train de vie sur sa situation. « Vous dites donc, Frédéric, observa la marquise, qu'en Espagne, chacun est content de son sort ? Ah, docteur, combien je regrette de vous dire que nous ne sommes plus sous ce rapport ce que nous étions jadis. Mon frère dit que dans le jargon du jour, il y a un mot inventé par le génie du mal et de l'orgueil qui sert comme de levier pour détruire les fondements de la société et qui a occasionné plus de malheur au genre humain que tout le despotisme du monde. « Et quel est ce mot ? Demanda Raphaël, pour que je lui coupe les oreilles. » « Ce mot, dit la marquise en soupirant, est la noble ambition. »« Mon Dieu, dit Raphaël, c'est que l'ambition a généralement la manie d'aspirer à la noblesse. » Ma tante, dit Rita, si nous nous jetons dans la politique et si vous vous mettez à répéter les maximes de mon oncle, je vous avertis que Don Frédéric va tomber dans la rêverie allemande, Raphaël dans le spleen anglais et Grâce et moi dans l'ennui français. Impertinente que tu es, lui dit sa tante. Pour éviter un si grand malheur, dit Raphaël, je fais une motion. Je vous propose de faire à nous tous un roman. Appuyez, appuyez, cria la comtesse. Quelle folie, dit sa mère. Voudrais-tu donc courir quelque aventure du genre de celle que ma fille a l'habitude de lire dans les feuilletons qu'écrivent les Français ? Et pourquoi pas ? Demanda Raphaël. Parce que personne ne le lira, à moins que vous l'annonciez comme écrit par un Français. Peu nous importe, répliqua Raphaël. Nous écrirons comme les oiseaux chantent, pour le seul plaisir de chanter, et non pour plaire à ceux qui nous liront. Du moins, reprit la marquise, faites-moi le plaisir de n'admettre ni séduction ni enlèvement. Peut-il être bon de représenter les femmes intéressantes à cause de leurs fautes ? Aux yeux des personnes sensées, il n'y a rien de moins digne d'intérêt qu'une fille sans cervelle qui se laisse séduire ou une femme impudique qui manque à ses devoirs. N'allez pas non plus, selon l'usage des romanciers à la mode, profaner les textes sacrés de l'écriture. Y a-t-il rien de plus scandaleux que de voir sur un papier et au-dessous d'une gravure inconvenante des paroles de notre Seigneur lui-même, comme celle-ci ? Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Ou ces autres paroles, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et tout cela pour excuser les vices. N'est-ce pas une profanation ? Ces sots écrivains ignorent-ils donc que ces divines paroles de miséricorde s'adressaient aux douleurs du repentir et au mérite d'une pénitence sincère ? Ciel, dit Raphaël, quel morceau d'éloquence ! Ma tante est vraiment sous le coup de l'inspiration. Je voterai pour sa candidature de députée au Cortès. N'allez pas non plus, continua la marquise, admettre l'épouvantable suicide qui était inconnu dans notre pays avant qu'on eût réussi à y affaiblir la religion, sinon à la bannir. Aucune de ces idées ne saurait nous convenir. Vous avez raison, dit la comtesse. Nous ne devons pas représenter les Espagnols comme des étrangers. Nous nous peindrons tels que nous sommes. Mais, avec les restrictions que demande Madame la Marquise, dit Stein, quel dénouement intéressant peut avoir un roman qui roule généralement sur une passion malheureuse ? Le dénouement qu'amène naturellement le temps, qui donne une solution à toute chose, quoi qu'en disent les romanciers qui rêvent au lieu d'observer. Mais ma tante, dit Raphaël, ce que vous dites là est prosaïque comme le pot-au-feu. Te tueras-tu si je me marie avec Louis ? Demanda tout bas Rita à son cousin. Moi, me faire le bourreau de moi-même, de mon intéressante et innocente personne, devenir mon propre Hérode ? Dieu m'en garde, belle ingrate, je veux vivre pour être témoin de tes regrets, pour m'en réjouir et pour remplacer ton Louis à tout s'il lui prend fantaisie d'aller jouer avec son compère Lucifer dans son royaume. N'affectez pas non plus, reprit la marquise, d'employer dans votre roman des locutions et des mots empruntés aux langues étrangères. Vous n'en avez pas besoin. Si vous ne savez pas votre langue, le dictionnaire est là. « Voilà qui est bien dit, répliqua Raphaël. Nous ne ferons pas de quartier aux notabilités ni aux dandys, intrus détestables, parasites venimeux et dangereux, émissaires de la Révolution. Tu dis plus vrai que tu ne le crois, répondit la marquise. Mais, mère, dit la comtesse, à force de restrictions, vous nous amènerez à faire quelque chose d'insipide. Je m'en fie à ton bon goût, dit la marquise, et à ce que pourra dire et imaginer Raphaël pour qu'il n'en soit pas ainsi. Encore un conseil, si vous nommez Dieu, désignez-le toujours par son vrai nom et non par quelqu'une de ces dénominations qui sont aujourd'hui à la mode, l'être suprême, suprême intelligence, modérateur de l'univers ou quelque autre du même nom. Comment, ma tante, s'écria Raphaël, voilà que vous déniez à Dieu ses pouvoirs et ses attributs. Non, certes, répondit la marquise, mais le nom de Dieu renferme tout. Cherchez d'autres noms plus pompeux, c'est vouloir argenter de l'or. Ce serait comme vouloir, sur le terrain des affaires humaines, ôter au chef du pouvoir le titre de roi pour l'appeler président, premier consul ou protecteur. Je suis sûr qu'avant d'avoir consommé sa rébellion, Lucifer appelait Dieu l'être suprême. Cependant, ma tante, il vous est impossible de nier que cela exprime davantage le respect et la soumission. Va te promener, Raphaël, répondit la marquise impatientée. Tu me contredis sans cesse, non par conviction, mais pour me faire enrager. Donne à Dieu le nom que lui-même s'est donné, car personne ne pourra lui en donner un meilleur. Vous avez raison, ma mère, dit la comtesse. Laissons de côté les faiblesses, les crimes et les maux retentissants, et faisons quelque chose de bon, de gracieux et de gai. Cependant, dit Raphaël, il faut avouer qu'il n'y a rien de plus fade dans un roman que la vertu toute seule. Supposons, par exemple, que je me mette à écrire la biographie de ma tante. Je dirai que ce fut une excellente jeune fille qui se maria au gré de ses parents avec un jeune homme qui lui plaisait. Je dirai encore qu'elle fut le modèle des épouses et des mères, sans autre défaut que d'être un peu trempée à l'antique et d'aimer avec excès le trésillo. Tout cela serait parfait pour une épitaphe, mais il faut convenir que c'est trop peu pour un roman. Et où as-tu trouvé que j'aspirais à être le modèle d'une héroïne de roman ? Demanda la marquise. Quelle extravagance ! Alors, dit Stein, écrivez un roman fantastique. Pour rien au monde, dit Raphaël, cela est bon pour vous autres Allemands, mais non pour nous. Un roman fantastique espagnol serait un genre insupportable pour notre pays. Eh bien, continua Stein, faites un roman héroïque ou lugubre. Dieu nous en préserve, répliqua Raphaël. Cette idée seule me fait dresser les cheveux sur la tête. Il n'y a rien qui convienne moins au caractère espagnol que le genre larmoyant. Le sentimentalisme est aussi opposé à notre caractère que le verbiage sentimental à la langue castillane. « Eh bien alors, qu'allons-nous faire ? » dit la comtesse. « Il y a deux genres qui, à mon humble avis, peuvent vous convenir. Nous laisserons aux savants le roman historique, mais le roman de mœurs peut convenir à notre portée moyenne. »« Eh bien, soit un roman de mœurs, » dit la comtesse. « C'est, continua Raphaël, le roman par excellence. Il est utile et agréable. Chaque nation devrait écrire les siens. Écrit avec exactitude et un véritable esprit d'observation, il serait d'un grand secours pour l'étude de l'humanité, de l'histoire, de la morale pratique, pour la connaissance des lieux et des époques. Si j'étais à la place de la reine, je ferais écrire un roman de mœurs dans chaque province, sans rien négliger sous le rapport de l'exactitude des faits et de l'analyse. Ce serait certainement un nouveau genre de géographie, dit Stein, mais où trouver des écrivains ? Il ne manquerait pas si on les cherchait bien, dit Raphaël, car il n'en manque pour aucune entreprise quand on sait les choisir avec discernement. Et comme preuve, en voilà. Et vous allez entendre à l'instant un roman composé par moi et qui tient des deux genres. Ce sera du beau, dit la marquise. Donc, Frédéric, vous allez voir quelque chose dans le genre de Berthold. Puisque ma cousine veut quelque chose de bon et de simple, ma chère tante, quelque chose de moral, sans passion, sans faiblesse, sans crime, sans citation de l'Écriture sainte, hérite à quelque chose de gai, je vais prendre pour sujet la vie honorable et morale de mon oncle, le général Santa Maria. Il ne te manquait plus, dit la marquise, que de te moquer de mon frère. Il me semble qu'il n'y donne pas prise, pourtant. » Non, certainement, répliqua Raphaël. Personne au monde n'apprécie et ne vénère mon oncle plus que moi. Et je sais que ses vertus militaires, qui parfois dépassent la mesure commune, lui ont valu le surnom de Don Quichotte de l'armée. Mais tout cela n'empêche pas qu'il ait aussi son histoire. Car si Madame de Staël dit que la vie d'une femme est toujours un roman, on peut dire que la vie d'un homme est toujours une histoire. Écoutez donc, incomparable docteur, l'histoire de mon oncle en abrégé. Jacques Léon Santa Maria naquit prédestiné à la carrière des armes, car il vit la lumière du jour, ou plutôt les ombres de la nuit, dans le moment même où la retraite passait devant les fenêtres de la maison paternelle, de manière qu'il fit son entrée dans le monde au son du tambour. « C'est vrai, » dit la marquise en souriant. « Je ne mens jamais quand je dis la vérité, » poursuivit gravement Raphaël. Comme signe de prédestination, il naquit avec une épée couleur de sang, dessinée avec la plus grande netteté par la nature sur sa poitrine, si bien que toutes les commères du quartier accoururent pour saluer le général in partibus des armées de Sa Majesté catholique. « Cela n'est pas exact, » dit la marquise. « Il est vrai qu'il a un signe sur la poitrine, mais ce signe a la forme d'une rave. » « Remarquez bien, docteur, » continua Raphaël, « que ma tante enlève tout prestige et toute poésie à l'histoire de son cher frère. Une rave sur la poitrine d'un brave au lieu d'une décoration militaire? Allons, ma tante, y a-t-il rien de plus ridicule ?»« Qu'y a-t-il donc de si ridicule, » dit la marquise, « à avoir un signe sur la poitrine ?»« Continue, Raphaël, » dit Rita, « je ne connaissais aucune de ses particularités. » « Épargne-nous toutes ces parenthèses. »« Personne ne nous poursuit, ma chère Rita, » dit Raphaël. « Qu'avons-nous besoin de nous presser? Un des avantages que nous avons sur les autres nations est de ne pas passer notre vie au galop comme des coureurs de profession. » À peine Léon Santa Maria eut-il accompli sa 12e année qu'il entra comme cadet dans un régiment, et depuis lors, il se tint droit comme un fuseau, sérieux comme un sermon et grave comme un enterrement. Il passa le temps à faire l'exercice et à se battre comme un brave dans le Roussillon, et il arriva à l'âge où le cœur se met à parler et à soupirer. « Raphaël, Raphaël !» dit sa tante, « fais bien attention à ce que tu vas dire. » « Ne craignez rien, ma tante, je ne parlerai que d'affection platonique. » « De quelles affections veux-tu parler? Y a-t-il donc plusieurs genres d'amour ?»« L'amour platonique, dit Raphaël, est celui qui se contente d'un regard, d'un soupir ou d'une lettre. »« C'est-à-dire, reprit la marquise, l'avant-garde. Mais tu sais que le corps d'armée la suit de près. Ainsi, tournons la page sur ce chapitre. » « Madame la marquise ne craignait rien, » poursuivit Raphaël. « Mon récit sera tel qu'après l'avoir entendu, chacun pourra se représenter mon oncle avec l'épée dans une main et la palme de la victoire dans l'autre. » Ses premières amours eurent pour objet une belle fille d'Ossoun où son régiment avait pris ses quartiers. Le jour où il y pensait le moins, l'ordre du départ arriva. Mon oncle dit qu'il reviendrait et la belle se mit à chanter « Malbrousse en fut en guerre ». Et elle le chanterait encore si un gros propriétaire de campagne ne lui avait offert sa grosse main et ses grosses possessions. Du reste, elle fut d'abord inconsolable. Elle pleurait comme des nuées d'automne et ne cessait de s'écrier jour et nuit « Santa Maria! Santa Maria !» Si bien qu'une servante qui couchait près d'elle, persuadée que sa maîtresse récitait les litanies, ne manquait jamais de répondre « Ora pro nobis !» Mon oncle, poursuivit Raphaël, reçut l'ordre de passer en Amérique, puis il revint prendre part à la guerre de l'indépendance et n'eut pas le loisir de penser au mariage. Il en résulta que n'ayant pas affaire à d'autres beautés que celles qu'il pouvait faire marcher tambour battant, il acquit une telle aigreur de caractère qu'il lui en resta le nom de général Verjus. « Comment oses-tu ? » s'écria la marquise. « Ma tante, répondit Raphaël, je n'ose rien, je ne fais que répéter ce qui a été dit par d'autres. » Tout doucement, la soixantaine arriva, amenant avec elle son cortège ordinaire de rhumatisme et de catarrhe, menaçant de devenir chronique. Ma tante et tous ses amis lui conseillèrent de prendre sa retraite et de se marier pour vivre tranquille. Remarquez bien le remède, docteur. Se marier pour vivre tranquille. Vous voyez que ma tante a de la propension pour l'homéopathie. Est-ce, demanda la marquise, cette méthode d'après laquelle, pour calmer, on donne des excitants? Ne le croyez pas, docteur, et surtout, n'allez pas donner ce genre de remède à l'enfant. Donc, comme vous le saurez, continua Raphaël, il y avait une fille d'un âge mûr qui n'avait pas voulu se marier au goût de son père et que son père n'avait pas voulu laisser s'établir comme elle l'entendait. L'auteur de ses jours était rempli d'orgueil de ce que sa fille s'appelait « Doña Pancracia tête de vache », en espagnol « Cabeza de vaca ». Eh bien, maintenant, cette noble tête de l'animal... La marquise l'interrompit. « Tu peux en rire comme tu ris de tout. C'est un privilège que t'a donné la nature, comme au soleil celui de briller. Mais sachez, don Frédéric, que ce nom, si ridicule aux yeux de mon neveu, est l'un des plus illustres et des plus anciens d'Espagne. Il doit son origine à la bataille de Las Navas de Tolosa. » Laquelle, ajouta Raphaël, eut lieu vers 1212 et fut gagnée par le roi Don Alphonse IX, appelé le Noble, père de la reine de France Blanche, mère de Saint-Louis. Par ce haut fait d'armes, il délivra la Castille du joug des Sarrasins. « C'est bien cela, dit la marquise, j'ai entendu raconter cela à ma belle-sœur. » Suivant son récit, le Mirama Moline, chef des Sarrasins, s'était retiré sur une hauteur, sur laquelle il se retrancha avec ses trésors, dans une espèce d'enceinte formée par de grosses chaînes de fer. Une rivière séparait cette colline de l'armée chrétienne. Le roi, qui ne pouvait la traverser, était au désespoir, quand un vieux berger, couvert de sa houppelande et de son capuchon, vint le trouver et lui fit connaître un endroit où il pourrait sans difficulté traverser la rivière à gué. Longez le bord en descendant le cours de la rivière, lui dit-il, et quand vous verrez la tête d'une vache qui a été dévorée par les loups, vous serez à l'endroit où se trouve le gué. C'est à cet avis qu'est due la mémorable victoire dont nous parlons. Le roi, par reconnaissance, anoblit celui qui lui avait rendu un service aussi signalé, et lui donna, pour lui et ses descendants, le nom de tête de vache. Ma belle-sœur dit qu'on conserve encore dans la cathédrale de Tolède la statue du berger patriote et les chaînes du camp de Mirama Moline. 600 ans de noblesse sont peu de choses, dit Raphaël, en comparaison de la nôtre. Car il faut que vous sachiez, docteur, que le nom de Santa Maria éclipse toutes les têtes de vaches quand même ils tireraient leur arbre généalogique des cornes de sel que Noé avait renfermées dans son arche. Sachez que nous sommes parents de la Sainte Vierge, rien moins que cela. Et ce qui le prouve, c'est qu'une de mes aïeules, quand elle récitait le rosaire avec ses servantes, selon la bonne vieille coutume espagnole... « Coutume qui se perd, hélas !» interrompit la marquise en soupirant. Elle disait, poursuivit Raphaël, « Je vous salue, ma cousine et madame, » et les domestiques répondaient, « Cousine et dame de sa seigneurie. » « Ne dis pas de pareilles choses devant des étrangers, Raphaël, » dit la comtesse, « car ils sont assez prévenus contre nous pour les croire, et s'ils ne les croient pas, d'assez mauvaise foi pour les répéter. Ce que tu viens de conter est une chose connue de tout le monde, une plaisanterie inventée pour se moquer des prétentions exagérées de notre famille en fait d'ancienneté. » À propos de ce que disent les étrangers, sais-tu, cousine, que dans le voyage en Espagne qu'il a publié, Lord Londonderry prétend qu'il n'y a plus à Séville qu'une seule jolie femme, qui est la marquise d'A, dont il défigure d'ailleurs le nom d'une manière étonnante. « Il a raison, dit la comtesse, Adèle est très jolie. » « Soit, dit Raphaël, elle est très jolie, mais dire qu'elle est la seule qui soit jolie me paraît une extravagance de première force. Le major est furieux et va lui intenter un procès comme calomniateur avec les pleins pouvoirs de la Giralda qui se tient pour la plus belle fille de Séville et se qualifie comme telle. C'est vouloir être plus royaliste que le roi, dit Rita avec un geste mêlé de grâce et de dédain. Et tu peux bien assurer le major, au nom de toutes les habitantes de Séville, qu'il leur est absolument indifférent que ce lord nous trouve laides ou jolies. Mais continue donc ton histoire, Raphaël. Tu en es resté au préliminaire du mariage de notre oncle. » Avant que Raphaël continue son histoire, interrompit la marquise, je vous dirai que la noblesse de notre famille était déjà reconnue en 1737, car c'est un de nos aïeux qui tua l'ours qui avait fait périr le roi Go dans sa ville, et c'est pour cela que nous avons un ours dans nos armes. Raphaël éclata de rire si bruyamment qu'il coupa le fil au récit de la marquise. « Allons, dit-il, voilà le pendant de ma cousine et de madame. Ma tante a une collection de dates généalogiques aussi véridiques les unes que les autres. Elle sait par cœur une généalogie des ducs d'Albe qui vaut le Pérou. Si vous aviez la bonté de me la faire connaître, madame la marquise, je vous en serais fort reconnaissant, dit Stein. » « Avec bien du plaisir, répondit la marquise, et j'espère que vous accorderez plus de crédit à mes paroles que cet enfant qui croit en savoir plus long que ceux qui l'ont vu naître. Vous savez que rien n'ennoblit autant l'homme que les traits de bravoure. » « À ce compte, dit Rita, José Maria pourrait être noble et plus encore grand d'Espagne de première classe. » « Que mes chers neveux aiment à contredire !» s'écria la marquise avec un peu d'impatience. « Eh bien oui, mademoiselle, José Maria aurait pu être noble s'il n'eût été bandit. »« Puisqu'il s'agit de José Maria, dit Raphaël, je vais raconter à Don Frédéric un trait d'audace de ce personnage. Je le tiens de bonne source. » »« Nous ne tenons pas à connaître les prouesses des héros de l'escopette, dit la marquise. « Raphaël, tu parles vraiment sans règle ni mesure. » « Écoutez mon aventure de José Maria, dit Raphaël. Un bandit héroïque, chevaleresque, élégant, galant et distingué, est un type qu'on ne trouve que dans notre pays. Vous autres étrangers, vous pourrez avoir beaucoup de ducs d'Albe, mais vous n'aurez jamais un José Maria. » « Comment peux-tu dire, répliqua la marquise, que les autres peuples pourront avoir beaucoup de ducs d'Albe? Avec cela que c'est si facile? Écoutez donc, Frédéric. Le Saint-Roi Don Ferdinand, étant devant les murs de Séville et voyant que le siège se prolongeait, proposa au roi Maure, qui, ceci soit dit pour plus d'exactitude, s'appelait Axataf, interrompit Raphaël. Et qu'importe le nom, continua la marquise. Il lui proposa donc, comme je disais, de décider le sort de la ville assiégée par un combat singulier, corps à corps, entre les deux monarques. Le Maure n'osa refuser le cartel. Le roi Ferdinand cacha son dessein à tout le monde et quand l'heure convenue arriva, il sortit seul la nuit de son camp, se dirigeant vers le lieu indiqué. Un soldat de sa garde qui le vit sortir soupçonna son intention et, craignant que le roi tombât dans quelque embuscade, prit ses armes et le suivit de loin. Le prince étant arrivé au lieu qu'on appelle encore la fontaine du roi et qui était alors un endroit fort sauvage, s'arrêta là pour attendre que le Maure se présentât. Mais il eut beau attendre, la chose à laquelle son ennemi pensait le moins, c'était à se rendre à son défi. C'est ainsi que le roi passa la nuit et, à la venue de l'aube, convaincu désormais que son ennemi ne viendrait pas, il allait se retirer lorsqu'il entendit du bruit dans les branches près de lui. Il ordonna à celui qui était là de se présenter devant lui, quel qu'il fût. C'était le soldat et il obéit. « Que fais-tu là ?» demanda le roi. « Seigneur, répondit le soldat, j'ai vu votre majesté sortir seule du camp et j'ai deviné son intention. J'ai craint quelque piège et je suis venu pour défendre votre personne. »« Seul ?» demanda le roi. « Seigneur, continua le soldat, est-ce que votre majesté et moi ne suffisons pas pour 200 morts ?»« Tu es sorti de mon camp, soldat, dit le roi, et tu y rentreras, duc d'Albe. » Albe en espagnol signifie aube. Vous voyez, Don Frédéric, dit Raphaël, que cette légende arrange des duels à minuit et crée des ducs à bouche que veux-tu. Mon Dieu, dit la comtesse, tais-toi donc, Raphaël, et laisse-nous cette croyance, car cette étymologie me plaît. Oui, répondit Raphaël, mais le duc d'Albe ne saurait aucun gré à ta mère de l'illustration qu'elle veut lui donner. Vous allez voir dans un moment la vérité à ce sujet. En disant ces mots, Raphaël se mit à courir et revint de suite avec un volume in-folio et en parchemin qu'il avait tiré de la bibliothèque du comte. « Voici, dit-il, la création, les privilèges et l'ancienneté des titres de Castille par Don José Berni y Catala, avocat des conseils du roi, page 140. Comte d'Albe, aujourd'hui duc. Le premier fut Don Fernando Alvarez de Toledo, créé comte d'Albe par Juan II en 1439. Don Enrique est le fils duc en 1469. Cette famille illustre est de sang royal et a occupé les premières charges d'Espagne dans les affaires de la guerre comme dans celles de la politique. Le duc commanda toute l'armée dans la conquête de la Flandre et dans celle du Portugal où il fit des merveilles. Cette très illustre famille a eu tant d'éclat et tant de mérite que pour tout énumérer, il faudrait des volumes. Vous voyez, ma tante, que l'histoire que vous nous avez racontée, bien que fort répandue, est apocryphe.
« Je ne sais ce que signifie ce mot grec ou français, » continua la marquise. « Mais pour en revenir au Santa Maria, ce nom leur fut donné à l'occasion de... »« Ma chère tante, » s'écria Rita, « dispensez-nous de grâce d'entendre votre histoire généalogique. Nous en avons assez des têtes de vache et des dalbes. Quand vous songerez à convoler à de nouvelles noces, vous pourrez alors faire briller aux yeux de votre préféré votre parure généalogique. »
Le nom primitif des ducs d'Albe est Alvarez, dit Stein, et c'est aussi le nom du propriétaire de ma maison, qui est un ancien marchand retiré des affaires, un brave et honnête homme. Je suis très étonné de voir que dans ce pays, les noms les plus illustres sont communs aux classes les plus élevées comme aux plus humbles. Serait-il vrai, comme on le dit chez nous, que tous les Espagnols se croient de sang noble ? Il y a là une confusion d'idées, comme les étrangers s'en forment généralement, surtout en ce qui concerne l'Espagne. Ainsi, il n'y en a pas un qui ne croit à point fermé que chaque garçon de ferme en labourant porte aux côtés l'épée, signe distinctif de la noblesse. Il y a en Espagne beaucoup de noms, pour ainsi dire généraux, et comme à la disposition de tous. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cela vient en grande partie de ce que, dans les siècles passés, les seigneurs qui avaient des esclaves leur donnaient leur propre nom en les affranchissant. Ces noms, portés par des mots redevenus libres, durent se multiplier, en particulier ceux des seigneurs les plus puissants, selon qu'ils avaient plus d'esclaves. Quelques-unes de ces nouvelles familles s'illustrèrent et furent anoblies. Mais il y en avait aussi qui descendaient de mots nobles. Mais les grands d'Espagne qui portent les mêmes noms se soucient aussi peu d'être confondus avec ces familles qu'avec celles des artisans qui se trouvent dans le même cas. Il faut également observer qu'il y en a beaucoup qui ont pris les noms des localités dont ils sont originaires, et c'est pour cela que nous avons des centaines de Médine, de Castille, de Navarre, de Toledo, de Burgos, d'Aragon, etc. Quant à ses aspirations à la possession d'un sang noble, qui sont si générales en Espagne, c'est une observation qui ne manque pas de fondement, car il est certain que notre peuple a de l'orgueil et des penchants pleins de délicatesse et de distinction. Mais il ne faut pas confondre ces traits du caractère national avec les ridicules affectations nobiliaires que nous avons vues dans ces derniers temps. Le peuple espagnol n'aspire pas à se parer d'Oripo, ni à sortir de la sphère dans laquelle la Providence l'a placé. Mais il attache autant d'importance à la pureté de son sang qu'à son honneur, surtout dans les provinces du Nord, dont les habitants se vantent d'être restés purs de tout mélange avec le sang mouresque. Cette pureté se perd par le soupçon du moindre mélange de sang mulâtre ou juif, par les offices de bourreau ou de crieur public, ou par la condamnation à des peines infamantes.
« Que Dieu nous vienne en aide !» dit Rita. « Que vous êtes ennuyeux avec votre noblesse ! Veux-tu bien, Raphaël, nous faire le plaisir de continuer l'histoire de notre oncle ?»«
Encore ! » s'écria la marquise. « Ma tante, » répondit Raphaël, « il n'y a pas de conte malheureux si le conteur tient bon. » Ainsi donc Frédéric, Santa Maria et Tête de Vache s'unirent comme deux tourtereaux. J'ai entendu dire bien des fois que ma tante, ici présente, pleura de joie en voyant une union si bien assortie.
Mon oncle, rien qu'à l'aspect de sa chère moitié, sentit s'apaiser les craintes que son neveu aurait pu lui inspirer.
« Raphaël !» s'écria la marquise.
Mais on fut bien surpris, et mon oncle plus que tout le monde, quand, au bout de 9 mois, la tête de vache mit au monde un petit Santa Maria, grand comme un éventail, et qu'on eût pu croire engendré par un X ou un Z. La tête de vache s'enfla comme celle de Jupiter quand elle enfanta Minerve. Il y eut alors un grand débat matrimonial. La dame voulait que son fils s'appelât Pancras, nom qui, depuis la bataille de las Navas de Tolos, avait été celui de tous les aînés de la famille. Mon oncle s'obstina à vouloir que le futur représentant des respectables Santa Maria n'eût pas d'autre nom que le nom sonore et militaire de son père. Ma tante les mit d'accord en proposant qu'on baptisât le nouveau-né des noms de Léon Pancras. D'où il résulta que son père l'a toujours appelé Léon et sa mère Pancras. Ce récit fut soudainement interrompu par le général qui entra dans l'appartement, pâle comme un mort, les lèvres serrées et jetant des éclairs par les yeux. « Mon Dieu !» dit tout bas Raphaël à Rita. « Je voudrais être en ce moment à 7 pieds sous terre avec les statues romaines qui servirent aux morts pour faire les fondations de la Giralda. »«
Je suis furieux !» dit le général.
« Qu'avez-vous, mon oncle ?» dit la comtesse, devenue rouge comme une tomate. Rita inclinait sa tête sur sa broderie en se mordant les lèvres pour s'empêcher de rire. La marquise avait une mine plus allongée que celle de Don Quichotte.
« C'est pique de se moquer des gens !» dit le général dont la voix était frémissante. « C'est une véritable insulte !»«
Mon oncle !» dit la comtesse en adoucissant sa voix le plus possible. « Quand il n'y a pas de mauvaise intention, quand il n'y a que légèreté, étourderie, envie de rire... »«
Envie de rire !» interrompit le général. « Ce rire de moi, ce rire de ma femme, par ma vie, on lui en fera passer la fantaisie. Je vais à l'instant faire ma plainte à la police. »«
À la police ? Es-tu dans ton bon sens, mon cher frère ?» s'écria la marquise.
« Si je sors bien de là, dit Raphaël tout bas à Rita, je fais vœu à Saint-Jean le silencieux de l'imiter pendant 1 an et 1 jour.
« Mon cher Léon, poursuivit la marquise, je te conjure, au nom de Dieu, de ne pas donner tant d'importance à un enfantillage. Calme-toi. Je sais qu'il t'aime et te respecte. Veux-tu faire un scandale ? Les querelles de famille ne doivent pas être divulguées au public. Allons, Léon, mon cher frère, que cela reste entre nous. »
« Pourquoi parles-tu de querelles de famille ? Répliqua le général en se tournant vers sa sœur. « Qu'a donc à voir la famille avec les insolences inouïes de cet écervelé d'anglais qui vient insulter les gens dans notre pays ?»
À ces mots, la sœur et les neveux du général se mirent à respirer avec soulagement, comme si on les eût débarrassés d'un poids qui leur oppressait le cœur. Leur crainte que notre conteur eût été entendu par l'irascible vétéran était sans fondement, et Raphaël demanda de sa voix la plus claire
« Et qu'a donc fait ce grand amphibie ?»«
Ce qu'il a fait, répondit le général, je vais vous le dire. Vous savez que, pour mon malheur, cet homme habite en face de moi. Eh bien, à 1 heure de la nuit, au moment où tout le monde est plongé dans le plus profond sommeil, le mister ouvre sa fenêtre et se met à jouer de la trompe. »
« Je sais, dit Raphaël, qu'il a une passion pour cet instrument. »
« En outre, continua le général, il joue très mal et le souffle de sa puissante poitrine tire de cet instrument des sons capables d'éveiller les morts à 20 lieues à la ronde, de manière que tous les chiens du voisinage se mettent à hurler. Vous aurez ainsi une idée des nuits qu'il nous fait passer. » Tous les efforts qu'avaient fait jusque-là les auditeurs pour surmonter leur envie de rire furent dès lors impuissants. L'explosion en fut si unanime et si bruyante que le général se tut soudain et leur jeta un regard indigné.
« Il ne vous manquait plus, mes neveux, que de trouver matière à rire dans une si grossière insolence, dans un pareil mépris du monde. Riez, riez à votre aise, et nous verrons si votre protégé rira aussi. »
En disant ces mots, le général sortit de l'appartement aussi brusquement qu'il y était entré et prit le chemin qui conduit à la police. Rita riait aux larmes. Est-il possible, Rita ? Dit la marquise qui n'était pas satisfaite. Au lieu d'en rire, tu devrais plutôt t'indigner d'un pareil manque de bon sens.
Ma tante, répondit la jeune fille, je sais parfaitement ce que mérite une pareille conduite. Mais quand je serai dans le cercueil, je ne pourrai m'empêcher de rire. Pour venger mon oncle, je vous promets que quand le major Grosse Mouche viendra me baragouiner des galanteries, je ne me contenterai pas de lui tourner le dos, mais je lui dirai de garder son souffle pour jouer de la trompe.
Tu ferais mieux, dit Raphaël, d'imiter les demoiselles étrangères qui rougissent pour dire bonjour et pâlissent pour souhaiter le bonsoir.
Ce serait peut-être mieux, dit Rita, mais je préfère le pire.
Avec tout cela, dit Stein, avec sa persévérance allemande, vous m'aviez promis, monsieur de Arias, de me raconter un trait de hardiesse de Rose et Marie.
Ce sera pour un autre jour, répondit Raphaël. Voilà mon général en chef, ajouta-t-il en tirant sa montre. Il est 3h15 et je suis invité à dîner à 3h chez le capitaine général. Si j'étais à votre place, docteur, j'irais prodiguer les soins de l'art à ma tante tête de vache, vu l'état critique où l'a mise la trompe du major.